Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région.
Top Music.
Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast L'essentiel, c'est la santé. Avec nous dans le studio, le professeur Laurence Lalanne, psychiatre addictologue, responsable du service addictologie au CHU de Strasbourg, pour nous parler du mois sans tabac, mais aussi des effets du confinement sur notre santé mentale. Alors on va commencer par ce sujet. Bonjour professeur Lalanne, est-ce qu'on est déprimé par l'épidémie ?
Bonjour Madame Martin, je crois qu'on n'est pas vraiment déprimé par le confinement et l'épidémie de Covid, mais ce qu'on peut se dire, c'est que ça génère un stress très important, ça génère effectivement une souffrance psychique et une détresse psychologique chez chacun d'entre nous, et d'autant plus chez les personnes vulnérables. Donc, il est important de s'aider et de s'entraider dans cette période effectivement difficile, parce que les conséquences du confinement peuvent être atténuées si on communique bien les uns avec les autres.
C'est-à-dire, si on communique bien les uns avec les autres, voilà. Il faut renouer le lien, c'est ça ? Parce que
c'est ça,
le confinement nous isole ?
Le confinement nous isole et il faut renouer le lien avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite dans l'unité INSERM où je travaille par le docteur Anne Girsch, donc sur la population française, mais évidemment un petit échantillon de cette population, donc qui n'est pas complètement représentatif, mais quand même, qui permet de dire que le stress et la détresse psychologique qu'on connaît au début du confinement en mars s'atténue chez les gens qui sont très communicants, très communicatifs et qui vont prendre facilement leur téléphone, utiliser les moyens à leur disposition pour communiquer avec les autres. Et c'est d'autant plus vrai qu'il faut effectivement aller chercher les gens qui sont plus isolés, par exemple les personnes en EHPAD, les adolescents en situation difficiles, qui ont plus tendance à l'isolement, de sorte à que cette communication puisse les aider à dépasser cette détresse psychologique. On sait qu'elle a une importance capitale dans ce moment-là.
Donc ça veut dire appeler ses proches régulièrement, ses amis par exemple ?
Exactement, ça veut dire appeler ses proches, appeler ses amis, appeler ses grands-parents, appeler ses parents, surtout essayer de communiquer, de parler du stress qui est ressenti, des difficultés qu'ils ressentent au quotidien, à gérer aussi quand on fait les courses, ne pas se contaminer, toutes les angoisses qui peuvent apparaître dans ce moment-là.
Car une étude de santé publique a montré que les troubles dépressifs ont augmenté avec le confinement. Il y a une ruée actuellement sur les anxiolytiques ou les antidépresseurs.
Oui, alors il y a une augmentation effectivement de la prescription des traitements anxiolytiques, antidépresseurs, mais aussi de l'ensemble des traitements. Est-ce que on peut dire qu'on est plus déprimé ? En tous les cas, on est plus anxieux, ça c'est sûr. Combien de temps ça va durer ? Est-ce que ça va être sur le long terme ? Est-ce que ça va être sur le court terme ? Pour l'instant, on n'a pas vraiment de recul. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les gens cherchent des solutions et cherchent des solutions dans les moyens de consommation aussi, dans les produits, hein, les toxiques, le tabac, l'alcool. Il y a une augmentation des consommations de produits qui ont un effet psychotrope, qui peuvent avoir de manière transitoire, comme ça, qui peuvent donner le sentiment aux gens d'être aidés de façon transitoire.
D'accord, oui, alors ça, c'est toutes les pratiques addictives. Juste avant de revenir sur ces pratiques addictives, est-ce que les enfants sont aussi perturbés par ce contexte d'épidémie, par ce contexte anxiogène ?
Alors, les enfants sont naturellement perturbés par ce contexte anxiogène, d'abord parce que maintenant, le masque est imposé aux enfants, donc ils sont dans des interactions qui sont différentes de celles d'avant, entre eux, et puis parce qu'ils voient bien leurs parents dans cette situation de télétravail, s'occupant d'eux, puis ayant des difficultés à gérer au quotidien leur propre travail et le travail des enfants. Oui, bien sûr, ils sont perturbés et doivent être rassurés dans ce contexte de confinement.
Parce que les enfants, c'est un peu les éponges aussi des adultes.
Ah, c'est ça, les éponges des mamans, c'est les éponges des papas, c'est les éponges des adultes en règle générale. Et c'est vrai qu'ils sont aussi coupés du fait de l'anxiété par rapport aux personnes âgées et aux personnes à risque de plus de 65 ans. Ils ont tendance à être coupés aussi d'un entourage qui leur était très présent auparavant et aussi ont besoin de voir leurs grands-parents, de bénéficier de ces moyens de communication qu'on met à disposition, tels que la visio ou passer des coups de fil à leurs grands-parents pour effectivement sentir qu'ils sont toujours là et toujours proches.
Donc, des études ont montré qu'il y avait vraiment, dû au confinement, des problèmes de troubles de l'anxiété, du sommeil. C'est des problèmes récurrents actuellement ?
Alors, surtout au début du confinement du mois de mars, il y a des troubles anxieux, des troubles du sommeil qui ont été signalés. C'est aussi pour ça qu'il y a eu une augmentation de prescriptions d'anxiolytiques, de prescriptions de traitements antidépresseurs. Bien sûr, ces troubles, dans l'étude du docteur Anne Girsch, ces troubles sont retrouvés de manière permanente durant tout le confinement. Donc, effectivement, il y a à mettre en place des solutions de type relaxation, de type, en tous les cas, détente, couper les ordinateurs, couper les écrans suffisamment tôt le soir pour pouvoir s'endormir, trouver des stratégies d'endormissement, des stratégies aussi pour s'épuiser un peu durant la journée, s'épuiser physiquement pour avoir envie de dormir le soir et diminuer sa charge anxieuse.
Professeur Lalanne, quels sont vos autres conseils pour se sentir mieux en cette période d'épidémie ?
Alors, quelques conseils sains. Appelez vos proches, appelez-vous les uns les autres, entre amis, communiquez. Plus vous communiquez, meilleur ce sera pour votre santé psychique, moins vous aurez de détresse psychologique. Appelez vos aînés, faites le nécessaire pour être au maximum dans le partage de vos angoisses, de votre anxiété. Il n'y a pas d'autre solution, finalement. La solution anxiolytique et antidépresseur n'est pas la bonne solution. Quand on en est là, c'est qu'on a d'autres soucis qui se sont surajoutés.
Et professeur Lalanne, la ville de Strasbourg vient de réactiver sa cellule de soutien psychologique et dénommée Covid Écoute 67. Pour vous, c'est absolument nécessaire de proposer ce service ?
Oh ben, je crois que les Strasbourgeois en ont déjà pas mal bénéficié depuis le confinement du mois de mars. Oui, c'est un dispositif qui marche très bien, c'est un dispositif qui est utile et qui s'accompagne aussi d'un dispositif Covid-Psy qui est pour les soignants, plus particulièrement. Ces deux dispositifs permettent, en tout cas, lors de détresse de repérer des détresses psychologiques importantes chez les personnes, et puis de leur proposer des prises en charge si c'est nécessaire, ou de les apaiser.
Alors, une récente étude montre que le télétravail et le confinement augmentent les pratiques addictives. Dans quelle mesure on boit plus ou on fume plus pendant le confinement ?
Alors, si vous dites plus, ça veut dire que les gens fumaient et buvaient avant. Donc déjà, c'est vrai que cette étude montre en fait que chez les personnes qui avaient déjà des conduites de consommation, on va dire, eh bien, il y a une augmentation du tabac, il y a une augmentation de la consommation d'alcool. C'est assez logique que vous augmentiez le tabac dans une période de télétravail. Vous n'avez plus de frein, vous n'avez plus votre patron qui vous regarde descendre pour aller fumer une cigarette, ou vos collègues. Donc, c'est sûr que vous avez moins de frein à la consommation, de la même façon pour les consommations d'alcool. Il y a ce paramètre-là qui est à prendre en compte. Le télétravail est un facteur de stress très important, et puisque c'est un facteur de stress très important, tous les produits psychoactifs qui vont avoir une action anxiolytique, tels que le tabac, tels que l'alcool, tels que d'autres produits, vont être augmentés. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, c'est que aussi, lorsqu'on est en télétravail avec son conjoint et ses enfants, si on avait des pratiques addictives dans la journée, elles sont d'un seul coup visibles alors qu'elles n'étaient pas visibles. Et donc, ça aussi, ça peut être une façon d'avoir un retour sur ces pratiques addictives dans la journée, quand on est confronté finalement à ses parents, à d'autres, à ses enfants, alors qu'on consommait finalement seul ou
voilà. C'est un révélateur.
Ça peut être aussi un révélateur, tout à fait.
Alors des cigarettes que l'on consomme sans restriction devant son ordinateur pendant qu'on travaille, ou ce verre de vin qui vient un peu récompenser la fin de journée de télétravail, c'est déjà le chemin vers la dépendance ?
Je dirais pas que c'est le chemin vers la dépendance, c'est-à-dire que on peut avoir une consommation modérée, mesurée d'alcool. Vous le savez, le problème avec le tabac, c'est que on sait qu'il faut zéro tabac pour zéro risque. Donc toute consommation va augmenter le risque. De la même façon, l'alcool, quand on commence à avoir des consommations excessives, va augmenter les risques de mortalité et de morbidité. Donc est-ce que c'est le début de la dépendance ? Non, c'est pas le début de la dépendance. On peut toujours freiner une consommation et on peut toujours freiner collectivement une consommation. C'est l'objectif de Moi sans tabac, par exemple.
Alors, il y a le confinement actuellement, reconfinement, mais il y a aussi le mois sans tabac. C'est un défi pour motiver chacun, pour arrêter de fumer. Est-ce important d'avoir un défi ? Est-ce que le concept de défi marche pour arrêter ?
Ben, ça marche parce que le challenge, ça marche toujours. Hein. C'est un challenge collectif, c'est quelque chose qui nous unit, c'est une cause qui est importante pour les personnes qui s'y inscrivent. Et le fait de savoir, d'abord, c'est au mois de novembre, en plein confinement, donc ça, c'est quand même assez étonnant hein, au niveau du timing. Mais le fait de savoir qu'on n'est pas seul à se confronter à ce problème, ben, ça peut être motivant. Or, arrêter de fumer, c'est quelque chose de très compliqué. C'est pas seulement une habitude, mais ça fait partie du fonctionnement normal. Quand on arrête de fumer, on est irritable, on est plus déprimé, on est plus en difficulté de faire nos tâches quotidiennes. Et donc, à savoir que d'autres personnes sont dans ce même mouvement, pouvoir bénéficier de conseils par rapport à l'arrêt du tabac, voire de consultations avancées, eh bien c'est vraiment quelque chose de très aidant.
Alors, qu'est-ce qui nous pousse à devenir dépendants ? Comment on explique le phénomène d'addiction ?
Alors, qu'est-ce qui nous pousse ? Il y a des facteurs environnementaux. On sait tous qu'on n'est pas à égalité par rapport à la dépendance à un produit. Il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs familiaux. C'est pas pareil d'avoir vécu dans une famille de fumeurs que d'avoir vécu dans une famille de non-fumeurs. C'est pas pareil d'avoir vécu des traumatismes dans sa vie que d'avoir vécu aucun traumatisme. Je pense à ces gens qui, ont changé de pays, ont dû fuir leur pays d'origine. Donc, il y a des gens qui ont des traumatismes psychiques extrêmement lourds qui vont les précipiter vers un produit simplement pour soulager l'anxiété liée à ces difficultés. Et puis, on n'est pas tous égaux face au stress, face à certaines situations de la vie quotidienne. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va développer des addictions. Alors, on va choisir son produit, certes, mais il y a des facteurs environnementaux qui sont importants comme déterminants.
Et si l'addiction augmente pendant le confinement, c'est parce que si on est seul, c'est la solitude ?
Alors, il n'y a pas que la solitude. Bien sûr que c'est un facteur. L'isolement est un facteur d'augmentation des processus addictifs. Il y a des études là qui montrent que l'ennui est un facteur d'augmentation, la solitude, mais aussi le fait d'être peu connecté, je vous l'ai dit, hein, d'avoir peu de communication avec ses proches, de voir peu de proches, hein, c'est aussi un facteur qui va aggraver les choses. Et puis, le stress lié à la peur d'être contaminé, la peur de contaminer ses proches, et le fait de ne pas savoir où on va, parce qu'il y a quand même ça actuellement, c'est que pour beaucoup de gens, sur le plan économique, il y a des difficultés à traverser, et ces difficultés s'accompagnent d'une angoisse très importante avec une augmentation des consommations.
Alors concrètement, comment vous prenez en charge les patients pour arrêter de fumer lors de vos consultations dans votre service d'addictologie au CHU de Strasbourg ?
Alors, nous, on a un petit biais, hein, puisqu'on est le service d'addictologie du CHU de Strasbourg. Donc, on voit des gens qui n'ont pas réussi à arrêter de fumer en dehors du service, hein, ce qui fait qu'on voit des gens qui ont grande difficulté. Donc, déjà, on ne les prend certainement pas en charge de la même façon que quelqu'un qui va aller en médecine générale, demander l'arrêt du tabac et qui va s'en sortir avec une prescription de substitut nicotinique. Mais globalement, ce qu'on cherche, c'est les déterminants et les moteurs de ces consommations. Pourquoi je consomme ? Comment je consomme ? Dans quel environnement ? Quels sont les facteurs de stress ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ? C'est-à-dire, on va mettre en place des stratégies, ce qu'on appelle des stratégies, c'est-à-dire comment je peux me relaxer dans une situation stressante pour ne pas avoir envie de consommer. Et surtout, comment je peux anticiper cette angoisse. Je sais que tel événement va arriver. Je sais que au cours de cet événement, je vais être stressée. Comme je le sais, qu'est-ce que je peux mettre en place avant, pendant et après pour éviter de consommer du tabac ?
C'est anticiper les angoisses.
Anticiper les situations à risque de consommation.
Quels sont les principaux conseils pour arrêter de fumer que vous donnez ?
Je ne crois pas qu'on donne des conseils comme ça de manière générique. Hein. On donne des conseils personnalisés, on avance avec le patient. Il n'est pas question de donner un conseil sans se préoccuper de la situation personnelle de la personne. Et ça, c'est les usagers de tabac savent très bien que il n'y a pas de formule toute faite et que s'ils sont là et s'ils s'inscrivent à Moi sans tabac, c'est aussi pour bénéficier de conseils adaptés à leur situation.
La bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a moins en moins de fumeurs en France, enfin en Alsace aussi. Qui a encore envie de fumer aujourd'hui ? Quel est le profil des fumeurs qui vous consultent ?
Alors, c'est vrai et en même temps, on peut dire qu'il y a moins de fumeurs. OK, bon, soit. Mais les profils de consommation chez les jeunes sont tellement différents maintenant qu'ils ont été il y a 20 ans ou il y a 10 ans qu'on peut toujours essayer de se dire qu'on fume moins, mais il y a peut-être d'autres façons de consommer du produit. D'abord, il y a d'autres produits. On voit bien, il y a des addictions sans substance qui apparaissent tous les jours.
Il y a le protoxyde d'azote dont on parle beaucoup en ce moment.
Le protoxyde d'azote dont on parle beaucoup. Il y a d'autres produits, des produits très toxiques qui arrivent sur le marché. Et donc, on peut absolument pas se dire que parce que les gens consomment moins de tabac, on est sorti du problème de l'addiction. Donc, ces transferts de dépendance, ou pas transfert de dépendance, mais c'est, si vous voulez, le fait de changer de produit, ben ça change pas, ça change le problème par rapport au tabac, mais ça ne change pas le problème par rapport à d'autres produits. Donc, je crois qu'il faut avoir un moment de vigilance par rapport à ça. Et puis, beaucoup de jeunes déclarent consommer du cannabis sans consommer de tabac, mais la plupart des jeunes qui consomment du cannabis le consomment quand même avec du tabac. Donc, là aussi, un moment de vigilance.
Donc, pour vous, il y a une baisse de consommation du tabac chez les jeunes, mais une augmentation de la consommation du cannabis ?
La consommation de cannabis, c'est importante chez les jeunes et donc il faut faire attention parce qu'elle est associée à cette consommation de tabac.
Parce que oui, l'autre bonne nouvelle, j'allais dire, le tabac est démodé aujourd'hui.
Comme je dis, il y a d'autres produits qui sont actuellement sur le marché et donc effectivement, même si le tabac est un peu old school, on va dire, eh bien ça empêche pas d'avoir d'autres moteurs de consommation et d'autres types de consommation qui sont à très haut risque. Vous parlez du protoxyde d'azote, il y a plusieurs produits actuellement qui sont quand même des inhalants et qui nous interpellent.
Est-ce que vous conseillez la cigarette électronique ?
La cigarette électronique, c'est un produit qui est quand même très intéressant parce que il y a eu des publications à fort impact qui sont sorties l'année dernière qui montrent que ça peut être un très très bon outil pour arrêter ou réduire la consommation de tabac. Un outil qui est assez efficace, voire plus efficace que les substituts nicotiniques, même si on a très peu de recul. J'invite à la prudence par rapport à ça. On a peu de recul parce qu'on a peu d'études, parce que c'est un produit qui est nouveau. Donc, c'est une revue qui est sortie sur 50 publications scientifiques. Donc, il faut garder du recul. Mais actuellement, on l'utilise comme outil de réduction des risques par rapport à la consommation de tabac, où effectivement, ça peut être intéressant pour certains patients qui n'arrivent pas à arrêter le geste et qui ont envie d'essayer ce type de réduction de risque ou de prise en charge, si vous voulez.
Alors pourtant, on voit que la cigarette électronique est victime régulièrement de fake news.
La cigarette électronique est victime de fake news, avec comme tout produit, en fait. On ne peut pas dire que... je ne pense pas que ce soit plus victime de fake news que d'autres produits qui ont circulé à un moment donné sur le marché. C'est vrai, parce que c'est un produit nouveau, que dès qu'on a une nouveauté en France, on est suspicieux par rapport à cette nouveauté. Après, il y a aussi, vous savez qu'il y a eu un contrôle quand même des e-liquides récemment, qui montre aussi que certains e-liquides ne sont pas complètement aux normes. Donc, c'est vrai qu'il y a une ambiance de suspicion à l'égard des produits nouveaux. Les études scientifiques permettront de lever les doutes ou, si vous voulez, de donner une idée très claire sur le long terme de l'usage, de la place de la cigarette électronique dans l'arrêt du tabac.
Oui, certains fumeurs s'inquiétaient de la toxicité de certains liquides de vapotage.
Oui.
Et laisser tomber parfois la cigarette électronique. J'ai l'impression qu'elle est moins à la mode qu'avant.
Bon, il y a eu cet épisode aux États-Unis avec du THC et surtout de l'huile enrichie en vitamine E et acétate dans les liquides, qui a fait beaucoup de bruit et qui a inquiété plus d'un vapoteur. C'est sûr, mais il faut voir que les produits illégaux, qu'ils soient dans le liquide ou qu'ils soient vendus comme ça à la sauvette, il y en a toujours. Donc, effectivement, il faut acheter des produits qui sont normés avec la norme AFNOR et il faut bien se renseigner et acheter dans des lieux recommandés, quoi.
Vapoter, en tout cas, c'est nettement moins toxique que fumer une cigarette.
Vapoter a manifestement, en termes de réduction des risques, est moins toxique que fumer une cigarette. L'échelle de risque, ce n'est pas facile de vous la donner actuellement. On n'a pas assez de recul pour vous la donner, mais c'est sûr qu'il vaut mieux vapoter que fumer des cigarettes.
Et professeur Lalanne, pouvez-vous nous rappeler les risques du tabac sur la santé ? Car ça peut aussi convaincre d'arrêter.
Mais les risques cardiovasculaires sont très importants. Il vaut mieux, il y a une étude qui est sortie récemment qui dit qu'il vaut mieux arrêter avant l'âge de 40 ans de fumer des cigarettes et qu'on augmente petit à petit son risque. C'est vrai que sur le plan des maladies cardiovasculaires, on peut dire que dans 20% des cas, eh bien, c'est attribuable au tabagisme. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est important. Et le tabac n'est pas seulement responsable de maladies cardiovasculaires, mais de cancers, bon nombre de cancers, donc cancer du poumon, mais aussi d'autres types de cancers. Donc, je crois qu'on a, enfin, en termes de mortalité et de maladies, on sait que le tabac est la première cause et cet indice de risque.
Et quand on arrête, on a des effets tout de suite? On a assez rapidement un sentiment de bien-être?
Je crois que quand on arrête, on n'a pas tout de suite un sentiment de bien-être. Hein. On a quand même, bien sûr, on a ce sentiment de bien-être va venir par la suite, mais il faut pas se leurrer. Il y a quand même, c'est pas pour rien qu'on parle d'aide à l'arrêt du tabac.
Mais il y a quand même des signes d'encouragement, quand même.
Il y a des signes d'encouragement, c'est-à-dire on retrouve le goût, on retrouve l'odorat, on arrive à profiter des petits plats de la grand-mère. J'espère que après le confinement, ce sera le cas pour ceux qui auront arrêté de fumer durant le mois sans tabac. Oui, on retrouve des sensations gustatives, tout à fait, et on retrouve un certain plaisir à ce niveau-là. Mais ça s'accompagne évidemment de temps en temps de quelques kilos supplémentaires.
Merci pour tous ces conseils pour arrêter de fumer. Je rappelle que c'est le mois sans tabac. Merci beaucoup, professeur Lalanne, pour ce podcast. L'essentiel, c'est la santé.